Les Voix de Service Magazine, mercredi le 4 octobre. Ça va devenir ma signature. Je laisse l'auditoire décider quelle date on est. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Les Voix de Service Magazine. À côté de moi, à ma gauche, Daniel Lachance.
Bonjour.
À ma droite, Serge Bradet.
Bonjour,
au centre,
bonjour.
Moi-même, Isabelle Falardeau. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui, messieurs?
Serge?
Oui, moi, je vais vous parler...
Ne vous bousculez pas, s'il vous plaît.
De Serge. Moi, j'ai deux sujets dans chaque chronique. Ce sont des petits sujets. Alors, la première chronique, je vais vous parler des caméliennes.
Ah,
vous savez ce que c'est, les caméliennes?
Ça a rapport avec Camélien Houde?
Oui, les toilettes publiques.
Ah oui, bien sûr.
Hein? Oui, et comme c'est court, ben, je vais également compléter avec l'historique des trois hôpitaux de Montréal qui vont former le CHUM, Hôtel-Dieu de Notre-Dame-Saint-Luc.
Ah, très intéressant.
Oui. Et en deuxième partie, savez-vous que la première école de Montréal, fondée par Marguerite Bourgeois, était dans une étable?
Une étable?
Oui. Et puis aussi à Rome, on peut visiter maintenant en 3D le palais de Néron, l'empereur Néron.
Ah.
Ouais, je vous parle de ça.
Ah, c'est intéressant. Mm-hmm. Et vous, mon cher Daniel?
Eh bien, en première partie, c'est pas une annonce, là. Tout le monde est déjà au courant, je pense, le décès de Tom Petty.
Ben oui.
Je vais vous parler un petit peu de sa carrière. Et en deuxième partie, je vais vous parler d'un des collègues de Tom Petty qui a fait partie d'un groupe avec lui et qui a été poursuivi, une poursuite célèbre pour un cas de plagiat.
Que
vous avez déjà deviné, probablement. Là,
mais ça va toujours être intéressant d'entendre les détails croustillants. Et quant à moi, ben, je vais vous parler de l'art, la commission qui recueille des témoignages et des œuvres. On parle de l'enquête sur les femmes autochtones. Et en fait, deux articles sur la même commission, mais d'un point de vue différent, puisque je vous partage le point de vue de l'anthropologue Serge Bouchard. Je vais commencer tout de suite justement avec M. Bouchard, qui était donc à la commission sur le titre de la commission, enfin, la commission là, qui se... Je recommence. Centrons-nous un petit peu de méditation.
Vous pourriez être ministre...
C'est qu'il y a beaucoup de commissions ces temps-ci. Alors, il y a deux commissions, une qui se penche sur la disparition des femmes autochtones, et une autre qui est à Val-d'Or et qui est plus sur les relations, avec la fameuse commission sur les relations avec les policiers. Alors, c'est de celle-là que je vais vous parler en premier. C'est un texte de Marie-Laure Jocelyn que j'ai pris sur le site de Ici Radio-Canada et qui a été publié le 25 septembre. Alors, les choses changent. C'est en tout cas l'impression que l'anthropologue Serge Bouchard, pour qui se présenter devant la commission à Val-d'Or est un moment privilégié après 50 ans de travail sur le sujet. Un éveil national est en cours, pense-t-il, une prise de conscience qui, selon lui, est la bonne comparativement à ce qu'il a connu dans les années 70, 80, 90. Là, les gens commencent à comprendre. Les gens ont finalement compris l'ampleur de la tragédie, compris la nature de la blessure. C'est le résultat de la politique. On ne vient pas au monde comme ça. Une réserve naturelle, ce n'est pas naturel. Le désespoir n'est pas naturel. Le taux de suicide n'est pas naturel. Le taux de toxicomanie n'est pas naturel. C'est une maladie qui a été créée par une situation. C'est le résultat de quelque chose, l'indignité, l'indifférence et la maltraitance générale et sociale. s'est livré à un cours magistral d'histoire durant lequel il a évoqué la grande diversité culturelle à l'origine de l'Amérique, dont la cartographie mériterait d'être mise de l'avant dans les écoles. Par 1812, l'année où, selon l'anthropologue, le cauchemar des Premières Nations a commencé, l'année où les gouvernements ne les entendent plus et les Indiens, comme on les appelait, deviennent un fardeau en politique. Par 1867 et la création de la Confédération. C'est un truc assez vicieux ce qui s'est passé en 1867 qui allait plomber toutes nos relations avec les Premières Nations à jamais. On a dit que les Indiens sont fédéraux, mais la nature va être provinciale. Ce n'est pas possible, tu viens de t'acheter du trouble pour 150 ans, pour des générations. Explique la personne
Monsieur
dont je
Bouchard.
Ne dirai pas le nom. Au cours de son témoignage parsemé de faits historiques et de points de vue personnels, il a aussi critiqué le système des réserves autochtones. Sur la foi de quoi le gouvernement fédéral va s'autoriser à prendre des communautés entières, à les mettre dans une réserve, contrôler leurs mouvements, établir des règles. On touche un point très souffrant, une honte nationale. Et le premier ministre Justin Trudeau vient d'en parler de cette fameuse honte. Mais c'est un point difficile. a-t-il lancé avant de poursuivre sur différents concepts, dont celui du blanc dominant, celui du racisme scientifique, celui de la fin du nomadisme, ainsi qu'à propos des pensionnats autochtones et leurs effets pervers. Ayons le courage de reconnaître que pendant des générations de fonctionnaires, de politiques, on a voulu bel et bien éradiquer la diversité culturelle du Canada, éradiquer plus de 50 nations authentiques, qu'elles disparaissent de la carte, de la mémoire. Serge Boussard... ça y est!
Celui dont on ne doit pas prononcer
c'est ça.
Le nom.
Monsieur Bouchard, comme vous disiez, a aussi parlé plus précisément de l'histoire au Québec avec la Convention de la baie James qui a permis aux Cris de commencer un long chemin qui se poursuit encore vers ce qu'on pourrait appeler l'autodétermination du peuple Anishinaabe qui occupe le territoire en Abitibi-Témiscamingue, peuple qui a souffert le plus de l'indifférence de la société dominante, selon lui. L'avenir du Québec, dit-il, passe par la reconnaissance concrète de ces Premières Nations, que chacune puisse exister avec des citoyens éduqués, des possibilités économiques et un pouvoir politique. Pour cela, il faut un nouveau personnel politique dans le monde autochtone qui va penser en dehors de la boîte, sortir de la dépendance des gouvernements, de l'État, notamment des affaires indiennes, et qui va imaginer une structure politique originale, éminemment revendicatrice. Et ça pourrait venir des femmes, car dans les communautés, plaide-t-il, le changement social passe beaucoup par les femmes. Il y a une société à reconstruire, un projet social à construire, ça prend de l'espace, de la fierté, de l'énergie et des idées nouvelles. Et ça, c'est tout ce que le ministère des Affaires indiennes n'a pas. À plusieurs reprises, il s'est attaqué à ce ministère. L'avenir n'est pas sombre, selon lui, même si le chantier est immense et les défis considérables. Il a d'ailleurs insisté sur un point, un investissement massif en éducation pourrait corriger la situation. Une éducation qui va dans tous les sens, en milieu autochtone, mais aussi dans la société dominante. Hein, on doit apprendre sur eux et en même temps, on doit leur donner les moyens d'avoir, on en a parlé la semaine dernière, d'avoir un système d'éducation qui est équivalent au nôtre. Ça ne peut pas changer en une semaine, ça va changer avec les enfants, la jeunesse, si présente dans les communautés autochtones. C'est elle qui renverse le monde, la vapeur, et ça va se faire à travers l'éducation. Serge Bouchard a conclu la première partie de son témoignage en affirmant qu'on a peut-être réalisé la nature de la blessure. N'importe quel médecin va vous le dire. C'est bon d'avoir un bon diagnostic pour envisager le traitement. Je pense qu'on ne l'a jamais vraiment fait dans le passé.
Et voilà, on sait que maintenant que Tom Petty est décédé, un article que j'ai pris dans le Rolling Stone magazine français qui s'intitule « Tom Petty, un prince est mort ». Tom Petty and the Heartbreakers venaient d'achever une tournée estivale. Le groupe fêtait ses 40 ans et a profité de l'occasion pour jouer des morceaux rarement interprétés sur scène, comme « Rocking Around With You » ainsi qu'une sélection d'extraits de « Wildflowers ». La tournée devait être son dernier voyage dans tout le pays. Tom Petty avait expliqué à Rolling Stone qu'il n'avait, malgré tout, pas l'intention d'arrêter de jouer. « J'ai besoin de faire quelque chose, ou alors j'ai tendance à embêter tout le monde chez moi. » Thomas Earl Petty est né à Gainesville, Floride, en octobre 1950. Fils d'un vendeur en assurance, il quitte le lycée à l'âge de 17 ans pour rejoindre le groupe Mudcrutch, qui décollait à l'époque. Le groupe était composé du guitariste Mike Campbell et du claviériste Benmont Tench, deux musiciens avec qui Tom Petty collaborera pendant environ 50 ans. Mais alors que le groupe gagne en popularité, Mudcrutch se sépare pour déménager à Los Angeles au début des années 70. La carrière de Tom Petty commencera réellement en 1975 avec l'enregistrement d'une bande démo avec Campbell, Tench, ainsi que le bassiste Ron Blair et le batteur Stan Lynch. La joyeuse bande se fait baptiser The Heartbreakers et enregistre un premier album éponyme, Tom Petty and the Heartbreakers, qui sort en 1976. À l'époque, l'album peine à décoller. Le single principal de l'opus, Breakdown, n'entre même pas dans les charts. Pourtant, aujourd'hui, on la reconnaît très bien, mais ça a pris un certain temps. Mais le groupe gagne en popularité après avoir tourné en première partie de Nils Lofgren, futur membre du E Street Band. E Street Band, c'est le band de... Ah, là, Bruce Springsteen. Je le voyais, je cherchais son nom.
Oui.
En Grande-Bretagne. Rapidement, le groupe devient la tête d'affiche de la tournée, tandis que l'album prend la tête des classements britanniques. Le label décide alors de ressortir Breakdown aux États-Unis, où le morceau entre au top 40 un an après sa sortie. Les singles suivants, tirés du second opus du groupe, You're Gonna Get It, tels que Listen to Her Heart ou I Need to Know, décollent bien dans les classements. À peu près à la même époque, l'une des principales influences de Tom Petty, Roger McGuinn des Byrds, enregistre une reprise d'American Girl, prouvant la capacité de Petty à créer. Ça se dit mal, ça.
Aussi, hein? On a de la misère aujourd'hui, hein? C'est une journée comme ça.
C'est la façon de prononcer le P, je pense, qu'il faut faire attention en anglais. Peu avant la fin de la décennie, Tom Petty fait faillite après que le label MCA a tenté de racheter son contrat des mains d'ABC Records. Il faudra attendre 9 mois avant que Petty n'obtienne un nouveau contrat qui lui permettra d'enregistrer l'album le plus connu de sa carrière, Damn the Torpedoes, en 1979. Celui-ci atteindra la 2e place des ventes d'albums et a été certifié depuis triple disque de platine. L'album contient les singles dont Do Me Like That et Refugee qui installeront Tom Petty dans le rôle de faiseur de tube. Mm. En plus, on le prononce souvent dans cet article-là.
C'est drôle, hein?
On va finir par savoir comment
on
il s'appelle.
On va s'habituer.
La fin des années 80 fut marquée à la fois par un échec commercial, Let Me Up, I've Had Enough, en 1986, suivi d'un succès, The Traveling Wilburys, volume 1, de 1988. Ce dernier marque le début de la collaboration entre Petty, Dylan, Roy Orbison, George Harrison et Jeff Lynne. Quand même, hein?
Moi, c'est là que j'ai connu Petty.
Ouais, tout un setup quand même. T'sais, on parle de Bob Dylan ici,
ah,
qui
oui,
est le
c'est
prix
pas
Nobel
des petits
de
noms,
littérature
hein?
Cette année, en hein, 2017, 2016.
Oui, non, il me semble que c'était cette année.
Je sais que ça a été très
long,
cette histoire-là, avant qu'elle
l'ait
cherché,
mais
bon, on a l'impression que ça a duré une couple d'années. Et Roy Orbison, que tout le monde connaît, Pretty Woman, Crying Over You, tout ça quand même. Donc, et George Harrison qui a fait partie d'un certain groupe qui s'appelait les Beatles à un moment donné. Donc, un méchant groupe. Il remportera un vif succès en étant certifié triple disque de platine grâce à des tubes comme Handle With Care ou End of the Line. Dans la lignée de ce succès, Tom Petty sort son premier album solo, Full Moon Fever, en 1989, produit par Jeff Lynne. À la même période, le chanteur commence à apparaître dans quelques films, Bienvenue au paradis en 1987 ou encore Postman en 1997 avec Kevin Costner. Ça, je n'étais pas au courant de ça.
Non,
je
ne
me souviens pas de l'avoir déjà vu dans des films, mais bon.
Non, c'est vrai.
Le succès inattendu de Full Moon Fever propulsera Tom Petty en pleine gloire dans les années 1990. Un second disque des Traveling Wilburys, sorti en 1990, peinera à retrouver la magie de l'original, mais l'année suivante, les Heartbreakers entrent en studio avec Jeff Lynne pour Into the Great Wide Open. Excusez, j'en coupe des petits bouts, parce que c'est trop long. Il y a 3 ans, Tom Petty and the Heartbreakers atteignaient pour la première fois la première place des charts avec Hypnotic Eye. L'album fut suivi d'une tournée américaine et d'une autre série de concerts en 2017 pour les 40 ans de la formation. « Je pense que ce sera mon dernier voyage dans tout le pays », disait Tom Petty à Rolling Stone peu avant le début de cette aventure. « Sans aucun doute, nous continuerons à jouer, mais allons-nous replanifier 50 concerts en une seule tournée? Je ne pense pas. Je mentirais si je ne disais pas que cette tournée risque fort d'être la dernière du genre. » Il y avait quand même une certaine vision... nous atteignons tous la fin de la soixantaine. J'ai une petite fille maintenant que j'aimerais voir autant que possible. Je ne veux plus passer ma vie sur la route. Après des années en tête de course, Tom Petty était heureux de son héritage musical. Quand vous gagnez en célébrité, vous êtes salué chanson par chanson ou album par album, confiait le chanteur à Esquire en 2006. Ce qui a changé pour moi, c'est que l'homme qui m'aborde dans la rue est plus ou moins reconnaissant à mon égard pour un ensemble de choses. La playlist de sa vie, comme ils disent souvent. C'est un sentiment formidable. C'est tout ce qu'un artiste peut souhaiter.
Merci.
I'm not afraid of you running away, honey. I get the feeling you owe. You see, there is no sense in pretending. Your eyes give you away. Something inside you is feeling like I do. You said all there is to say.
Tom Petty and the Heartbreakers avec Breakdown. Et juste pour compléter sur le sujet, il y a encore quelques articles aujourd'hui dans différents journaux. Et d'ailleurs, je regardais ce matin dans le 24 heures Montréal, une pluie d'hommage pour Tom Petty et plein d'artistes qui se sont prononcés, dont des très célèbres Ringo Starr et Paul McCartney, qui ont publié un chaleureux salut aux chanteurs et aux siens. J'envoie tout mon amour à Tom Petty et à sa famille dans ces moments difficiles, et Sheryl Crow et plein d'autres personnes comme ça aussi. Mmh. Donc, c'était quelqu'un qui était très apprécié autant dans la colonie artistique que
par le public.
Oui, par le public. Voilà.
Merci. Serge.
Oui, alors c'est ce...
Alors, l'école dans les tables, c'est
non,
ça?
Les non. Caméliennes.
Ah, les Caméliennes en
les
premier.
Hôpitaux, puis l'école dans les tables dans la deuxième partie. Alors, c'est sorti un article que j'ai trouvé dans la revue À nous, Montréal, de l'automne 2017. J'ai l'impression que ça sort quatre fois par année, parce qu'on parle de l'automne. Et l'autre vient de la revue... On appelle ça mais c'est pas une revue, c'est assez épais. C'est je pense qu'ils donnaient ça à l'ouverture du CHUM.
Okay.
Cette brochure-là, c'est tout. Alors, il y a. Et les deux articles ne sont pas signés.
Bon.
Alors, c'est.
Bon.
Auteur.
On peut les modifier.
Oui. Donc, les caméliennes. En traversant le carré Saint-Louis, on croise un petit édifice octogonal. Mais sait-on qu'on a sous les yeux l'un des derniers vestiges d'une vaste initiative destinée à sortir Montréal de la crise économique de 1929? De grands travaux contre la crise. Nous sommes en 1931, en pleine crise économique. Le krach boursier de 1929 fait encore sentir ses effets partout en Amérique, y compris à Montréal. Un travailleur sur cinq est au chômage. Deux ans plus tard, ce sera un sur trois. Les files s'allongent devant les soupes populaires de la ville. Le maire de l'époque, Camillien Houde, cherche une solution.
Non, c'était soupir. Juste une époque, ça me rappelle...
T'as vécu ça?
Non, mais... oui, c'est ça. Ben, j'ai vécu la pauvreté, puis quand je pense à ça, je me dis, wow, ça a été vraiment une période difficile. Là,
ouais, très, 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 oui, oui. Non, la crise de 29, là, je ne sais pas si on... Souhaitons ne jamais revivre
non,
ça.
Non, c'est ça.
Mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais ça a été horrible pour une grande partie de la société... dans le monde,
à travers le monde, c'est ça.
Monde,
c'est ça qui était incroyable.
Donc, le maire de l'époque, Camillien Houde, cherche une solution pour relancer l'économie de Montréal. Il s'inspire donc du gouvernement américain pour lancer un vaste projet d'infrastructure par lequel la ville finance la construction de viaducs, de bains publics, de chalets et de toilettes publiques. Le maire compte ainsi faire d'une pierre deux coups, améliorer la salubrité des espaces publics et donner du travail à ses concitoyens. des Vespasiennes aux Camilliennes. Les Vespasiennes, on appelait Vespasiennes pour de l'empereur Vespasien mm-hmm. à
oui,
Rome,
c'est
qui
ça.
Avait construit des urinoirs publics le nom est resté. Alors, les Vespasiennes, construites au début des années 1930 dans une vingtaine de parcs et de squares à travers la ville, sont rapidement rebaptisées les Camilliennes, tant ce projet est lié au maire. Leur architecture s'inspire souvent du style art déco, prisé pour sa sobriété en cette époque où les moyens sont évidemment limités. C'est à Dona Beaupré qu'on doit les plans des toilettes publiques octogonales, dont il subsiste par exemple des exemples au Carré Saint-Louis et au Square Cabot. Savez-vous où est le Square Cabot? J'ai découvert hier, je suis allé sur Internet.
Chose, mais non, je sais pas.
C'est devant le forum au marché, le petit parc devant Atwater.
Ok, ok.
Ouais. Mm-hmm. Cet architecte de la ville de Montréal a signé les plans de nombreux bains publics, chalets de parc, casernes de pompiers et autres édifices municipaux. Celle du Carré Saint-Louis est d'ailleurs un transplant. D'abord érigée sur le Square Vigée, elle a été déplacée au Square Saint-Louis en 1981 pendant la construction de l'autoroute Ville-Marie. Comme celle du Square Cabot, qui abrite aujourd'hui le café de la Maison Ronde, elle est classée bâtiment d'intérêt patrimonial. Eh bien, ce matin, on... Après un demi-siècle d'utilisation, la plupart des Camilliennes ont été condamnées. Mais plusieurs existent toujours. En regardant bien, on distingue d'ailleurs les vestiges des escaliers menant à celles qui se trouvent encore sur le Square Phillips devant le magasin Labbé. Ouvrez l'œil lors de vos prochaines visites dans les parcs de la ville. Alors maintenant, l'histoire des trois hôpitaux qui forment le CHUM maintenant. Le CHUM, c'est un article donc dans cette revue-là que j'ai trouvé à la clinique. Le CHUM au service des patients depuis 375 ans. Le nouvel hôpital accueillera ses premiers patients d'ici la fin de l'année 2017. Ce complexe hospitalier unique réunit trois hôpitaux, Hôtel-Dieu, Notre-Dame et Saint-Luc, qui partagent une même mission de soins, mais se distinguent toutefois par une culture bien spécifique à chacun. Un bref retour dans le passé permettra d'en apprendre beaucoup plus sur les origines des trois hôpitaux fondateurs. L'importance accordée aux patients, la recherche et la transmission des connaissances ont marqué le cours de leur évolution et se sont perpétués dans le temps pour le plus grand bénéfice de la population québécoise. L'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu, premier hôpital de Montréal, comme on le sait, fait partie intégrante de l'histoire de la métropole. En effet, Jeanne Mance, sa fondatrice, a aussi participé à la fondation de Montréal au 17e siècle. Cette femme hors du commun, assistée des sœurs hospitalières de Saint-Joseph, a prodigué des soins aux patients de la ville. Pendant deux siècles, l'Hôtel-Dieu est le seul hôpital francophone de Montréal et un pôle de soins et de services en santé pour la population. Au 19e siècle, l'hôpital ouvre ses salles aux étudiants et aux médecins de l'École de médecine et de chirurgie de Montréal, en échange de soins prodigués gratuitement aux patients hospitalisés. Au début du 20e siècle, une école d'infirmières s'affilie à l'hôpital. Plus tard, cette formation sera confiée aux collèges et aux universités, évidemment. Déjà, l'Hôtel-Dieu se distingue en tant qu'hôpital enseignant et apprenant. L'hôpital Notre-Dame possède aussi un statut d'institution d'enseignement. Fondé en 1880 par le docteur Emmanuel Persillier Lachapelle, cette corporation laïque est dirigée par des médecins, une nouveauté à l'époque. Entre 1880 et 1890, l'hôpital ouvre 6 dispensaires spécialisés en médecine, chirurgie, psychiatrie, otorhino-laryngologie, ophtalmologie et électricité. Électricité médicale. C'est aussi à Notre-Dame qu'est créée en 1898 la première école d'infirmières canadienne-française par sœur Élodie Mailloux. Au cours des années 40 et 50, de nouveaux services spécialisés en recherche, tels l'Institut du cancer et le Centre d'orthophonie, sont mis en place, permettant à l'hôpital de répondre aux normes d'une société plus avancée sur le plan technologique et où la recherche commence à s'implanter dans le milieu de la santé. L'hôpital Saint-Luc, enfin. L'hôpital Saint-Luc ouvre ses portes en 1908 dans une maison convertie en dispensaire située dans le quartier le plus pauvre de Montréal. Le fondateur, le docteur F.A. Fleury, se donne comme mission de traiter les enfants démunis et toute personne requérant des soins. Dans les années 30, des lits sont mis à la disposition des itinérants malades et des marins du port de Montréal. En échange, la Ville et le gouvernement du Canada versent un certain montant pour chaque consultation ou hospitalisation. Ces nouveaux modes de coopération ont inspiré la création des régimes universels d'accès aux soins médicaux. L'hôpital Saint-Luc a été le premier au Québec à offrir des services d'urgence 24 heures sur 24.
Ah oui?
Oui, c'était le premier.
Est-ce qu'on sait si c'était dès 1908 ou je ne sais pas si...
Non, on ne me dit pas la date. On dit que c'est sans discrimination ethnique, linguistique ou religieuse. Les champs de spécialisation privilégiés étaient l'otorhino-laryngologie, l'ophtalmologie, la dentisterie et la clinique antivénérienne.
Ah, déjà à l'époque, hein? Oui, en fait, peut-être même encore plus à l'époque, ça devait être un fléau.
Oui, oui, ce qui attestait des préoccupations communautaires de l'établissement. Parce qu'évidemment, cet hôtel-là était situé...
Cet hôpital-là, dans un quartier pauvre.
Ben oui, puis dans, près ça. Du Red Light, la rue Saint-Laurent, qui a toujours été, et près du port, où évidemment, il y avait les marins qui venaient d'autres pays. Alors,
un bon endroit pour faire du business.
Ben, finalement. C'est ça, oui.
Oui, c'est ça.
Alors, c'est ça, c'est donc la fusion de ces trois hôpitaux-là qui a donné naissance au CHUM. Je sais pas, vous n'êtes pas allé visiter quand il y a eu les portes ouvertes, non? Mais il y avait des portes ouvertes, là. Mm-hmm.
J'en ai entendu parler.
Je n'ai pas pu, malheureusement, ça n'a pas donné.
Non, j'ai pas.
Mais ça sent. Moi, je le vois de chez moi.
De l'extérieur, c'est on voit, là, c'est un village. C'est une ville. C'est une petite ville. Là. Ouais.
Et ce n'est pas complété parce que l'hôpital, le vieil hôpital Saint-Luc, qui est construit actuellement, là, qui. Va être démoli là, dans la... qu'une fois que tout l'hôpital, le nouveau CHUM va être en opération, ils vont transférer tout là.
Oui, c'est ça. Ils ne peuvent pas le faire avant que, évidemment, ils doivent mettre les patients quelque part avant de les enlever d'ailleurs.
Ça, ouais. Mm-hmm.
Eh bien, merci beaucoup, Serge. Alors, c'est ce qui met fin à la première partie des Voix de service magazine. On se retrouve après la pause.
C'était He's So Fine du groupe de Chiffons. Je ne sais pas si je le prononce de la bonne façon. Les chiffons, en
fait. Ça, vous le prononcez sûrement mieux que je le ferai, en tout cas. Ça, c'est
Et je ne sais pas si vous avez reconnu des airs. Vous n'écoutez pas. Hein,
c'est non, j'écoutais. Ben, ça faisait penser un peu aux années dans lesquelles je n'étais pas née.
Ah, OK. Ouais, c'est pas ça. OK. Ben, bonne excuse. Mais en fait. vous allez comprendre durant l'article que je vais vous lire. J'ai trouvé ça curieux hier, je suis tombé là-dessus sur Rolling Stone Magazine encore une fois et c'était publié lundi. Pourtant, c'est une vieille histoire, je ne sais pas pourquoi ils auraient sorti ça, mais étant donné que je vous en avais déjà parlé, et en plus, ça faisait un peu un lien avec Tom Petty. Le titre, c'est George Harrison, This Sweet Lord. Une chanson aux allures de mantra indien. un casting de musiciens haut de gamme, Phil Spector aux manettes, et puis un girls group 60s et un procès retentissant. La saga de My Sweet Lord, premier hit solo du mystique ex-Beatle, n'est pas exactement zen. Deux accords et un mantra, c'est ainsi qu'on pourrait résumer succinctement l'un des morceaux les plus controversés de l'histoire du rock. Une prière pop, un succès qui encombra les tribunaux pendant deux décennies. Un sac de nœuds juridiques, un tube à problème. My Sweet Lord, ou comment un glorieux ex-Beatle se fit accuser de vulgaire plagiat. Lorsque George Harrison enregistre sa chanson à l'été 1970, il est loin de se douter du destin agité qu'elle va connaître. Certes, il redoute un peu la réaction du public devant ce cantique prosélyte à la gloire du mouvement Hare Krishna, à tel point qu'il a décidé de ne publier aucun single extrait de ce qu'il considère comme son grand œuvre, un ambitieux triple album, All Things Must Pass, sa première échappée solo post-Fab Four. Il faut se rappeler qu'à l'époque, quand il faisait partie des Beatles, c'était très rare qu'il pouvait placer une chanson sur un des albums des Beatles. C'était toujours Lennon-McCartney. Mm-hmm. Et quand les Beatles se sont séparés, il avait réussi à accumuler pas mal de matériel. Donc, son premier album qu'il a présenté comme album solo, c'était un triple album. C'était la première fois qu'on voit ça. Il y en avait long à compter.
C'est pas
il y en avait long à dire. Pourtant, son entourage s'accorde à penser que My Sweet Lord est un hit en puissance. À raison, sorti aux États-Unis le 23 novembre 1970, le titre trône dans les charts pendant des semaines avec plus d'un million d'exemplaires écoulés en moins d'un mois. La chanson paraîtra en Europe quelques mois plus tard avec le même retentissement. Hare Krishna, Hare Rama, qu'on entend souvent dans cette chanson-là.
Oui, okay.
Le slogan a déjà commencé à parcourir la planète au son de clochettes tibétaines agitées par des cohortes de jeunes tondus en robes multicolores. Et récemment, ou l'été dernier, j'en ai vu encore des Hare Krishna. J'ai l'impression qu'il y avait...
Il semble qu'on en voit beaucoup moins avant. Il y en avait.
Mais moi, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. À l'occasion, on en voit encore. Mm-hmm. Fondé à New York en 1966, dédié à une divinité de l'hindouisme, le mouvement a vite séduit les adeptes de la contre-culture en mal d'exotisme philosophique, dont Harrison, qui, non content d'apprendre le sitar avec Ravi Shankar, s'est passionné très tôt pour la culture et la spiritualité venue d'Inde. C'est à son initiative que les Beatles s'offrirent un séjour prime-sautier chez le Maharishi Mahesh Yogi en février 1968. S'il n'est pas officiellement membre du mouvement Krishna, George le fréquente régulièrement, le soutient financièrement et considère son fondateur, Prabhupada, comme son maître spirituel. En août 1969, il a même produit un disque pour le Radha Krishna Temple de Londres, un single qui sera suivi de l'album de chants religieux sur le label Apple. En décembre 1969, Harrison est à Copenhague, dans le sillage de la tournée de ses copains Delaney and Bonnie. Entre deux conférences de presse, il gratte sa guitare et improvise sur les deux fameux accords qui vont ouvrir la chanson. Au départ, il a en tête d'écrire un hymne dans la lignée du « Oh Happy Day », popularisé par les Edwin Hawkins Singers 2 ans auparavant. Petit à petit, le morceau prend forme avec un texte en forme de prière répétitive et un refrain basé sur l'association du Hare Krishna, sanskrit et de l'Alléluia hébreu qui disent la même chose, selon George. Curieusement, Harrison va d'abord offrir la chanson à son pote Billy Preston. La première version, dans le registre Gospel Soul Funk de My Sweet Lord, figurera donc sur l'album solo de Preston, Encouraging Words, publié en janvier 1970 et produit par Harrison. Mais lorsqu'il commence à travailler sur son propre album, George décide de la reprendre à son compte. L'enregistrement a lieu entre London Trident Studios et Abbey Road, avec rien que du beau monde. En vrac, Harrison, Eric Clapton, les membres du groupe Badfingers aux guitares, Preston au clavier, Bobby Keys, ça c'est celui qui jouait du sax avec les Rolling Stones, Klaus Voormann, Ringo Starr et Jim Gordon à la batterie. Donc, c'était pas un petit band de garage.
Non,
le résultat, on l'a dit, se propulse immédiatement au sommet des hit parades, à tel point que Lennon, qui vient d'enregistrer la chanson God, dans laquelle il affirme ne croire ni en Jésus ni en Bouddha, déclarera un brin jaloux « À chaque fois que j'ouvre la radio, j'entends ça. Je vais finir par penser que Dieu existe. » On reconnaît le petit Lennon un peu sarcastique. Les tracas juridiques qui vont suivre n'ont rien à voir avec un quelconque jugement divin. Dès le 10 janvier 1971, la compagnie d'édition Bright Tunes assigne en justice Harrison pour plagiat. My Sweet Lord présente des similarités évidentes avec He's So Fine, qu'on a entendu il y a quelques minutes, une chanson du groupe féminin The Chiffons qui date de 1963. Même suite d'accords, même mélodie, même tempo. Malgré les dénégations de George, le procès durera près d'un quart de siècle avec des querelles d'experts, tractations financières, appels et retournements de situation. Le tout encore compliqué par les manœuvres d'Alan Klein, ex-manager des Beatles, et de Harrison, viré en 1973. D'abord défenseur de George, il finira par passer de l'autre côté en rachetant en douce les droits de la chanson « He's So Fine ».
Ça, ah, celle-là, oui, hein,
celle-là
je
l'ai trouvée bonne. C'était l'ex-gérant de Harrison, et quand il a vu que la soupe commençait à chauffer avec le procès pour plagiat, il a racheté les droits de l'autre chanson.
Comme ça, il gagnait sur les deux côtés.
Écoute, non, mais je peux comprendre qu'Harrison ne l'aimait plus vraiment après, mais c'est génial quand même, tu sais, je trouve. Bon, donc, en septembre 1976, George Harrison, par la bouche du juge Richard Howen, est reconnu coupable de copie subconsciente. Ça voulait dire en principe.
Il n'a pas fait exprès.
C'est quelque chose qu'il avait probablement déjà entendu, qu'il avait oublié, mais qu'il a pensé qu'il a recomposé après. Mais c'était une copie.
En tout cas,
le juge a décidé ça.
Bon.
Et condamné à verser la somme de 1,6 million de dollars. Une amende réduite plus tard à 587 000 dollars, la somme que Klein a dépensée pour racheter les droits du titre des Chiffons et que George, cruelle ironie du sort, devra payer à son traître d'ex-homme d'affaires. Le litige ne trouvera sa conclusion définitive qu'en mars 1998. Le single sera une nouvelle fois publié juste après la mort de George, le 29 novembre 2001. Depuis, My Sweet Lord résonne jusqu'au paradis.
Que ça donne envie de croire en Dieu. Hein?
Ben oui, belle chanson quand même.
Et moi, je ne vais pas vous parler de Dieu du tout, mais bien de l'enquête sur les femmes autochtones. C'est un article de Fanny Lévesque et mon attention a été attirée sur cet article par notre chère Hélène Denis qui animait cette émission et en fait qui anime toujours, bien sûr, les voies de service qui nous suit. Bref, la commission qui recueille des témoignages et des œuvres s'est parue dans la presse plus le 27 septembre. Témoigner du drame à travers l'art, c'est ce que permet l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, aux familles endeuillées ainsi qu'aux survivantes qui peinent à trouver les mots pour raconter leur histoire. Une pratique peu commune, voire jamais vue pour une commission d'enquête, mais pourtant bien collée à la réalité des Premières Nations. L'Enquête nationale pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a souhaité offrir aux familles et aux survivantes, mais aussi à tous les artistes qui le souhaitent, la possibilité de livrer leur témoignage à travers une œuvre d'art. Une danse, un chant ou encore une sculpture, un dessin ou une photographie, pour n'en nommer que quelques-unes, sont autant de formes acceptées. C'est en respect de nos traditions et de nos coutumes, explique l'avocate Fanny Wild, conseillère juridique de la Commission. Pour les Premières Nations, la culture, l'art et l'expression orale, c'est quelque chose d'omniprésent. C'était important d'ouvrir cette porte dans un souci de transformer cette commission à notre image pour avoir une récolte de preuves décolonisées. L'œuvre d'art doit néanmoins être accompagnée d'un récit expliquant ce qu'elle signifie et à la mémoire de qui elle est offerte. Il y a des familles qui ne sont pas prêtes à témoigner, mais qui désirent laisser une trace, indique Mme Wild. Dans nos mœurs, l'art est très, très important dans la façon d'honorer les gens ou de témoigner de sa propre vie. L'art fait déjà partie intégrante des travaux menés par la commission d'enquête, selon Mme Wilde. Dès les premières audiences tenues à Whitehorse, des Autochtones ont notamment livré des chants traditionnels et remis des œuvres. L'expression artistique peut aussi être synonyme de guérison chez les individus ayant vécu des chocs post-traumatiques, par exemple. Ça peut être très libérateur, explique la psychologue et art-thérapeute Alexandra Duchâtel. On dit qu'une image vaut mille mots. Pour certains, s'exprimer avec des images permet une profondeur au niveau du ressenti. Dessiner quelque chose de traumatisant permet à la personne à la fois d'exprimer son vécu et de reprendre du pouvoir. Selon elle, l'art touchera aussi autrement ceux qui le voient. L'intelligence logique, séquentielle, est sollicitée avec la parole. L'image va plutôt solliciter une autre forme d'intelligence. Elle va toucher l'âme d'une autre façon, souligne la professeure invitée de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Le chant traditionnel, c'est une prière, une médecine. Chanter, c'est prier, exprime l'artiste Florent Volant. Pour lui, l'art sous toutes ses formes contribue au mieux vivre des Autochtones. Pour nous, le chant, ce n'est pas juste comme une chanson, ce n'est pas la même vision, c'est plus spirituel. Ce n'est pas juste pour divertir, c'est davantage un partage avec l'esprit. C'est une question de survie. Moi, c'est ce que j'ai eu comme héritage. L'auteur-compositeur-interprète Innu de Maniutenam salue la décision de la commission de permettre aux participants de s'exprimer à travers l'art. « Ce n'est pas tout le monde qui a la facilité à parler, » dit-il. « C'est une forme d'expression qui va aller plus loin que de juste s'exprimer verbalement. C'est comme si on invitait les gens à transformer cette épreuve-là en quelque chose de vivant. » L'enquête nationale compte dans ses rangs une équipe chargée de récolter et d'archiver les œuvres soumises tout au long des travaux. Il n'a d'ailleurs pas exclu que des œuvres soient exposées dans différents musées canadiens après le mandat de la commission, dans un objectif d'éducation populaire, entre autres. Les œuvres peuvent servir à éduquer, à démontrer la résilience aussi. Nos danses, nos chants, c'est quelque chose de vraiment important. C'est encore l'avocate Fanny Wilde qui parle. Malgré tout ce qui nous est arrivé, malgré tous les ravages, les Premières Nations ont été en mesure de conserver ça. C'est un témoignage vivant de la vie de l'être cher ou de la survivante elle-même. Selon elle, les œuvres peuvent témoigner de la douleur, la perte et l'impact des nombreux cas de disparition et d'assassinat de femmes autochtones survenus au Canada. Ça permet de visualiser la tragédie et de laisser en mémoire ce qui est arrivé. Ça change la compréhension, la perception des individus. La commission prévoit aussi, avec l'accord des artistes, de faire des enregistrements vidéo ou audio, des performances et des récits. Et donc, c'était cet article que vous pouvez trouver dans la presse plus du 27 septembre, signé Fanny Lévesque, la commission qui recueille des témoignages et des œuvres.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
Sacré Charlemagne. Et c'est pas de Charlemagne que vous allez nous parler, mais bien de l'école, Serge.
Oui, de l'école en Nouvelle-France. L'origine de l'école en Nouvelle-France. Alors, tout d'abord, c'est Marguerite Bourgeois qui a fondé la première école. Donc,
La première école.
Donc, quelques mots sur Marguerite Bourgeois. Sainte Marguerite Bourgeois.
Oui, bien sûr. Oui.
En religion, sœur Marguerite du Saint-Sacrement. Elle est née à Troyes, en France, le 17 avril 1620 et est décédée le 12 janvier 1700 à Ville-Marie, au Québec. Donc, elle a vécu 80 ans, la dame.
Quand même.
Elle est la première enseignante de Montréal et la fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal. Et elle a été canonisée le 31 octobre 1982 par le pape Jean-Paul II. Et elle est liturgiquement commémorée le...
La Sainte Marguerite.
Le 12 janvier.
12 janvier.
Ah, 12 janvier, oui.
Merci.
Elle est considérée comme la cofondatrice de Montréal avec Jeanne Mance, ainsi que cofondatrice de l'Église du Canada. Une femme a cofondé l'Église. Ben oui. Marguerite Bourgeois est aussi appelée la mère de la colonie. Soulignant cet aspect de l'œuvre de Marguerite Bourgeois, lors de la canonisation de la Sainte canadienne, le pape Jean-Paul II lui a d'ailleurs rendu hommage de cette façon-là. Donc, c'est un article donc de cette revue à nous Montréal, l'étable école. La première rentrée scolaire de Ville-Marie a eu lieu dans une étable. Je pense qu'on a... Moi, je me rappelle, j'ai fait ma première année en 56. J'ai commencé en 56. Dans une écurie, ouais.
Oui.
Non,
oui,
mais je me rappelle qu'on nous enseignait ça. Vous autres, ça vous... Vous êtes plus jeune que moi. C'était pas dans votre... on vous a pas parlé de ça.
Quoi?
Que Marguerite, que la première école avait lu dans une étable.
Non, j'avoue que ben, on l'a peut-être appris, mais...
Ouais, moi, je me rappelle de ça. Ça m'est revenu
ça
en lisant l'article.
Oui,
pendant qu'ils ont... Ils devaient être gênés.
Mais vous avez fait votre cours classique, c'est ça? Ouais.
Non, ma première année, tu sais. C'est dans l'actuel Vieux-Montréal, à proximité du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Paul, qu'était située la première école de Montréal. Où exactement? Un mystère, car deux plaques commémoratives situées à quelques centaines de mètres l'une de l'autre, rue Saint-Dizier et rue Le Royer, se disputent la mémoire de son emplacement d'origine. Chose certaine, les premiers écoliers de la colonie ont appris à lire et à compter dans une ancienne étable. En 1658, le fondateur de Ville-Marie, l'actuel Montréal, donc Paul de Chaumédé de Maisonneuve, concède à Marguerite Bourgeois, une laïque dévouée à l'éducation, une étable qu'elle convertit en école. Pendant des mois, elle aménage le bâtiment avec l'aide de ses futurs élèves et possiblement, évidemment, de menuisiers et de maçons. La classe occupe le rez-de-chaussée. Elle y a d'ailleurs fait installer un foyer, tandis que l'ancien pigeonnier à l'étage accueille la future enseignante et son assistante, Marguerite Picard, âgée de 12 ans. L'étable-école ouvre ses portes le 30 avril 1658. Comme la colonie est clairsemée, seuls quelques enfants peuplent Ville-Marie depuis sa fondation, 16 ans plus tôt, elle n'accueille que 13 enfants âgés de 5 à 9 ans. Pour le reste, peu d'archives témoignent du déroulement de cette première rentrée scolaire, explique Stéphane Martel, directeur général par intérim du musée Marguerite Bourgeois. On ignore même si Marguerite Bourgeois y a fait la classe ce printemps-là.
Ah oui.
Dès l'automne suivant, Marguerite Bourgeois, qui anticipe une pénurie d'enseignantes, confie l'école aux soins de la jeune Picard, et à deux hospitalières de Québec pour retourner à Troyes, en France, où elle...
Est-ce que vous voulez dire Troyes, peut-être?
Troyes, c'est T-R-O-Y-E-S. Oui,
mais je pense que la ville de Troyes, c'est comme ça que ça s'écrit.
Je ne sais pas, j'avais un doute hier, puis j'ai... Je ne peux pas vous dire.
Mais bon, OK, peut-être non. que...
Peut-être vérifier dans un dictionnaire.
Oui, on l'a épelé, donc on sait de quoi on parle.
Oui, ben, moi, dans un documentaire, j'ai entendu Troy. C'est pour ça que
écoutez, c'est moi qui me mets un pied dans la bouche, alors.
Mais peut-être que la personne du documentaire faisait aussi petite erreur. Un an plus tard, elle revient à Montréal avec quatre recrues, des pionnières de la future congrégation de Notre-Dame. Les années passent, la colonie prospère et l'école étable ne suffit plus pour instruire les enfants des colons et des Amérindiens. En juillet 1662, Marguerite Bourgeois achète et annexe une maison ainsi qu'une petite grange s'élevant sur un lopin de terre situé en diagonale par rapport à la propriété de l'école. Rien ne nous indique que cette maison ait été aménagée pour des classes, car dès 1663, Marguerite y accueille 17 filles du roi qui devait peupler la colonie, ajoute M. Martel. Selon les déductions des historiens faites à partir du recensement de juin 1663, il y avait au moins une trentaine d'élèves dans l'école dirigée par Marguerite Bourgeois cette année-là. Et jusqu'au milieu des années 1660, garçons et filles se côtoyaient en classe, une pratique inhabituelle à l'époque, tant chez les catholiques que chez les protestants. Ah, il faut croire que les contraintes de la vie des colons l'ont emporté sur les préceptes religieux. Alors, quelques... Non,
vous disiez tantôt
sur
son assistante qui avait 12 ans.
Ouais.
Ma grand-mère maternelle, qui était née en 1900, a commencé à enseigner à l'âge de 14 ans.
Ouais.
Donc, en 1914, elle avait 14 ans, elle était enseignante déjà.
14 ans?
L'école de campagne, elle était toute seule, en plein milieu de rien.
C'était quelque chose, cette époque-là.
Ma mère, moi, nous a dit, ma mère est née en 20, et nous a dit qu'elle avait enseigné à ces âges-là, 14-15 ans à peu près. Je pense pas qu'elle a eu la responsabilité de la classe au complet, mais elle devait donner un coup de main à l'enseignante. Alors, les dernières années de la vie de Marguerite Bourgeois, en 1693, Marguerite Bourgeois cède sa place comme supérieure de la congrégation. Marie Barbier, qui la remplace, est la première Montréalaise à s'être rejointe à la communauté en 1678. Marguerite Bourgeois est alors âgée de 73 ans, ce qui est très âgé pour l'époque, particulièrement en Nouvelle-France. Alors, une grande partie de ces dernières années, Marguerite Bourgeois les passera à l'infirmerie de la communauté. Elle entre alors dans la solitude et le recueillement. Alors, maintenant, une visite en 3D du palais de Néron.
Ah oui,
oui, c'est dans la revue Historia, mai 2017. Depuis février dernier, 2 février 2017, à Rome, les ruines de la Domus Aurea, la maison dorée, la résidence de Néron, détruite une trentaine d'années après son suicide en 69, se revisitent en 3D, assis avec un casque de réalité virtuelle. Grâce à son Oculus Rift, là, vous me, c'est technique, vous me perdez. Y'a-t-il quelqu'un qui sait plus? Qui combine, ouais. On dit que ça combine vidéo mapping et réalité augmentée. Peut-être Jean-Sébastien, notre nerd, pourrait nous. Je pense que j'aurais dû.
Il est occupé présentement.
Les yeux qu'il vient de faire, là.
Je ne sais pas, désolé.
Cette prouesse technologique, lui permet d'appréhender toute la splendeur de ce somptueux palais, l'un des plus luxueux de l'Antiquité, où tout était recouvert d'or et orné de pierres précieuses, comme l'écrit l'historien romain Suétone. Ses murs de marbre précieux, son stuc doré, et surtout ses fameuses fresques figurant nymphes et dieux de l'Olympe. Le visiteur peut découvrir les différentes salles, telles que la Volta Dorata, ou encore le Coenatio Rotonde, une salle à manger circulaire, qui tournait sur elle-même pour éviter le mouvement de la Terre. Dans un documentaire, moi j'ai entendu que probablement c'était des esclaves qui faisaient tourner cette salle à manger-là. Parce que là, on avait le mécanisme, il n'y avait pas d'électricité à l'époque, ça devait être manuel.
Il fallait que quelqu'un le fasse bouger.
Sans oublier ses voûtes, ses colonnades, sa façade et ses jardins luxuriants. Cette expérience multisensorielle et dynamique a lieu uniquement le week-end et sur réservation par groupe de 25 personnes, en attendant la réouverture du palais, actuellement en restauration, prévue pour 2022. Mais je ne sais pas si on va tout restaurer le palais au complet.
Mais tant qu'à avoir fait ça, pourquoi pas le rendre disponible sur une plateforme pour qu'on puisse mettre un casque puis notre PlayStation 4? Là,
Ça va probablement venir.
Ça serait chouette, dans le confort de son salon.
Oui, je suis allé sur Internet, je te le fais un petit peu, puis on parlait de... Il y avait une vidéo, mais on ne peut pas, évidemment, avec les lunettes.
Non,
vos lunettes à la maison, mais... Je sais pas, probablement que ça va devenir possible.
Moi, j'en ai pas encore, mais peut-être que ça va venir.
Ça va devenir possible. Ouais.
Mais la semaine prochaine, si vous voulez, faudrait revenir, je vous parlerai d'un concert qui est en production, en préparation. Et ça, le personnage va apparaître sous forme holographique.
Ah oui!
Je ne dis pas c'est qui, mais ça va être assez spécial. Oui.
Et vous allez maintenant nous parler d'Amelia Earhart.
Oui,
Serge.
L'aviatrice. La violoniste, oui. Dans la revue Histoire de mars-avril 2017, mais où est passé l'avion d'Amelia Earhart? Alors, le 2 juin 1937, Amelia Earhart, pionnière de la conquête du ciel, est attendue sur l'île Darlin, un minuscule rocher perdu dans le Pacifique. 5 ans plus tôt, celle qu'on nomme Lady Lindy, en référence à Lindbergh, est devenue la première femme à traverser l'Atlantique en solitaire en 14h56. L'Américaine s'est lancée un autre défi, faire le tour du monde, le long de la ligne de l'Équateur. Rien de moins. Oui, elle a déjà avalé les 3/4 du parcours. Partie de Nouvelle-Guinée, 19h plus tôt, Amelia et son navigateur Fred Noonan sont censés faire escale sur Holland, avant de repartir pour Hawaï et enfin gagner la Californie. Mais le duo de pilotes n'a pas réussi à localiser le confetti. Confetti, c'est Hawaï. À court de carburant, leur appareil s'est probablement abîmé en mer. Aussitôt, 3000 hommes, 66 avions et 9 navires sont mobilisés pour tenter de localiser l'avion. Mais des îles Phoenix aux îles Marshall, les équipes de secours font chou blanc. Amelia a disparu des écrans radars. Des passionnés la cherchent toujours. En septembre 2016, Rick Gillespie, du groupe international de recherche des avions historiques, annonce une hypothèse séduisante. Ça, Daniel en avait parlé, je pense. C'est en onde, je pense. Selon lui, dans le désespoir le plus absolu, les deux aviateurs ont diffusé une centaine de messages de détresse entre le 2 et le 6 juin 1937, captés du Texas à l'Australie. Les acolytes y affirment être blessés. Amelia ne serait donc pas morte dans un crash, mais aurait atterri sur l'atoll de Nikumaroro, dans les îles de Kiribati, où elle serait décédée plusieurs mois plus tard. Là-bas, des ossements découverts en 1940 et analysés à tort comme ceux d'un homme pourraient, selon les dernières analyses, être ceux de Miss Lindy. On dit avoir trouvé un morceau d'aluminium qui pourrait appartenir à l'avion d'Erhard, c'est tout. Mais promis, Rick Gillespie et son groupe vont fouiller la zone en 2017 pour les 80 ans de cette intrigante disparition.
Très intéressant. Merci beoup, Serge. Et bien, c'est ce qui met fin à cette édition du 4 octobre des Voix de service magazine. Merci beaucoup, Daniel Lachance, Serge Bradet. Merci à Jean-Sébastien Laliberté qui fait tout pour nous. Et en mon nom personnel, Isabelle Falardeau, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et je vous dis à la semaine prochaine.